Belgique, il n'y a qu'une mer, celle du Nord. En cinéma, il n'y a qu'une plage, celle de Cannes. Et tandis que le festival fête 70 printemps, enfin, 70 printemps, les souvenirs viennent s'écraser sous les brises-lames d'Ostende, la même où ce festival du film a bien failli avoir lieu, même si personne ne se souvient vraiment de cette histoire. Ostende est une ville d'artistes, parce que c'est une ville qui se jette dans la mer. Il y a 70 ans, c'est donc ici que n'a pas eu lieu la première édition du Festival de Cannes, puisqu'elle a eu lieu à Cannes. Et pourtant, Ostende a bien failli emporter la palme en postulant comme ville organisatrice de ce grand festival de cinéma libre et indépendant dont l'Europe fascisante avait tant besoin en 1938. Et si aujourd'hui la renommée de Cannes n'est plus à faire, la plage la plus prisée du début du siècle dernier était bien celle d'Ansor, d'Henri Storck et d'Arnaud.
Ça existe sûrement, là, le film Berger, ça c'est sûr. Il y a toujours un surréalisme en dedans.
L'histoire bordélique du cinéma belge à Cannes peut se raconter comme celle d'une itinérance sans chemin tracé. Une errance à la rencontre d'hommes et de femmes qui ont fabriqué une histoire sans le savoir.
Il est où?
Dans l'enfer des villes.
Vas-y, c'est vendu.
À mon regard, tu te dérobes.
Ah, mon copain, arrête.
Vraiment le plus âgé.
Ouais, mais ça, c'est normal, hein, c'est le début.
De Storck aux Dardennes, depuis l'existence du festival et toute compétition confondue, près de 120 films venus du plat pays ont été sélectionnés à Cannes. Les cinéastes ont alors fait le voyage jusque là-bas avec un vague espoir de quelque chose. Si Arnaud préfère rester auprès de sa plage natale, le pèlerinage commence, façon puzzle, à la recherche de celles et ceux qui ont bien voulu raconter leur histoire du Festival de Cannes.
Avec la mer du Nord, le long du golfe clair, et des vagues dodues, aurait-il les vagues, et des poissons volants, volants comme des goélands.
Un cinéaste belge, ça peut vivre parfois dans une petite masure, l'air de rien, au milieu des champs, avec presque personne autour. Et pourtant, Raoul Servet a travaillé, entre autres, avec René Magritte et Paul Delvaux. Il a réalisé 16 films, et se souvient bien de ce 11e film d'animation, sélectionné à Cannes en 1979.
Le film que je présentais était Harpia, et je dois vous dire que quand j'avais terminé le film, j'étais convaincu que j'avais fait un très mauvais film. Et ils m'ont dit que c'était à l'unanimité qu'ils avaient voté pour ce film. Ça faisait évidemment grand plaisir.
32e Festival International du Film, établi par le jury, présidé par Madame Françoise Sagan. Film de court-métrage, Palme d'or, Harpia, de Raoul Servet.
Et puis un journaliste belge qui est venu, qui m'a dit, voilà, tu es le premier belge à avoir obtenu la Palme d'or, ce que j'ignorais bien sûr. Nous étions trois à avoir obtenu la Palme d'or, puisque Coppola et Schlendorf étaient ex aequo pour la Palme d'or du long-métrage. C'est un film que j'ai presque fait tout seul, pour des raisons techniques, trop compliquées pour le faire par quelqu'un d'autre. C'était une technique primitive que j'avais imaginée moi-même, et j'étais le seul à pouvoir l'utiliser. Mais bon, je n'avais pas de producteur, puisque je suis moi producteur, réalisateur, scénariste, garçon de course, tout quoi. J'étais donc tout à fait seul. Je n'étais pas sous les regards des journalistes, c'est évident. Et je m'en félicitais d'ailleurs. Quand le festival était terminé, Je fais un rendez-vous avec ma future épouse à Venise. Et je prends le train, j'arrive à la frontière italienne, les carabinières y montent dans le train, j'avais perdu mes papiers. Et puis j'ai eu tout soudainement une idée. J'avais acheté à la gare de Cannes le journal, je crois que c'était Nice Matin. Il y avait une photo de moi-même avec la Palme d'Or. J'ai sorti le journal, j'ai montré ça aux carabinieri, et j'ai sorti la Palme d'Or, j'ai dit, voilà, ça c'est moi. Oh, monsieur, vous êtes le bienvenu en Italie. Je suis passé comme ça. Donc ça me servait aussi également de passeport. Je crois que c'est la bonne qualité. Elle a environ 40 ans, la Palme, et n'est pas trop oxydée.
Première Palme d'Or pour le cinéma belge, qui à l'époque ne connaissait pas encore de distinction entre nord et sud du pays. Tout a commencé en 1938, quand la Mostra de Venise est inaugurée par un certain Joseph Goebbels. Les Français, soutenus par les Américains et les Britanniques, lancent alors l'idée d'un festival du monde libre à Ostende ou à Biarritz. Ce sera Cannes et ses beaux hôtels. L'ouverture est prévue en septembre 1939. Arrêté net par la guerre déclarée le lendemain de la soirée d'ouverture, le premier véritable festival a finalement lieu en 1946, avec l'envie de se retrouver en paix et au soleil.
Oui, au début, le festival de Cannes, c'est l'amitié entre les peuples, une façon pour le cinéma d'intervenir. On est dans l'après-guerre, donc il s'agit de reconstruire par la culture et par ces grandioses manifestations internationales. C'est les pays qui envoyaient leurs films, qui envoyaient leurs meilleurs représentants. D'ailleurs, la première édition du Festival de Cannes, il n'y avait pas encore la Palme d'Or, elle arrivera 10 ans plus tard. Mais le Grand Prix, donc, était l'équivalent de la Palme d'Or, il y en avait 12 ou 14. C'est-à-dire qu'ils remettaient un Grand Prix par pays. Comme dans l'émission de Jacques Martin à la télévision, l'école des fans, tout le monde avait une bonne note.
Comme de bons écoliers du documentaire, et comme s'il fallait déjà s'excuser d'exister, le premier film belge présent à Cannes est un documentaire qui s'intitule « Des hommes comme les autres ». Mais le plus célèbre de ses représentants de l'époque, Henri Storck, dut attendre 1952 pour être sélectionné officiellement et débarquer avec son film « Le banquet des fraudeurs ». Et avec lui, cet esprit d'autodérision cher aux Belges. Le cinéma belge devrait-il sortir des sentiers battus pour se faire voir ou simplement pour rester libre? Émile Desgelin, cinéaste de Diest, marque les esprits avec un film tourné dans les dunes de la Palme. Si le vent te fait peur, est en compétition officielle à Cannes en 1960.
Pourtant, l'idée d'aller camper seul dans les dunes nous enchantait. Ma sœur avait échoué à son examen et j'avais trop travaillé toute l'année. Il fallait qu'elle étudie et que je me repose. Nous aurions de l'air et du calme. Personne ne pouvait prévoir que ce ne serait pas tout à fait cela et qu'il suffirait que nous soyons seuls pour que tout commence.
Un frère et une sœur s'aiment, c'est tout. Sujet tabou. Desgelin a une relation incestueuse avec le cinéma français. Il réfute la nouvelle vague, comme Magritte à l'époque, des groupes surréalistes français, trop parisiens pour être vrais. Jean-Luc Godard est à Cannes cette année-là, avec À bout de souffle. Mais Émile Desgelin lui vole la vedette, même s'il partage avec lui un esprit expérimental. Le même compositeur, et Rachel, la sœur de Godard, dont il est amoureux. Cannes, c'est un savant mélange de découvertes et de têtes d'affiche. Les années 60 révèlent Bardot, Delon, Deneuve et Fellini, qui lance la décennie de tous les excès en se voyant décerner, contre l'avis de tous, la Palme d'Or pour la Dolce Vita, reçue des mains du Belge Georges Simenon, aussi président du jury. Et puis, la fin de la fête avec Godard en 1968. Sous les palmiers, la plage du festival fait aussi sa révolution.
Solidarité avec les étudiants et les ouvriers, et vous me parlez Travelling, les gros plans. Vous êtes en Europe.
Les hiérarchies sont bouleversées et s'infiltre peu à peu à Cannes la nécessité de se réinventer. Il y avait déjà la semaine de la critique et voilà que la quinzaine des réalisateurs se crée dès 1969 pour la découverte de nouveaux talents. En attendant, à Bruxelles, c'était encore le temps où les projets de films se faisaient rares. Et par la volonté de quelques téméraires, certains se concrétisaient. En 1974, contre toute attente, La cage aux ours, un petit film produit par Jacqueline Pierreux, est en compétition officielle.
On est tous en famille ici. Vous êtes bien.
La cage aux ours rentrait dans la catégorie des films que j'aimais, sociaux, un peu militants. Ça raconte un quartier qui se perd à cause des grandes surfaces et le petit épicier du coin qui n'en sort pas, plus la jeunesse un peu rebelle de l'époque. Ça se passe en septembre, donc il y avait eu 68 un peu avant. Et les deux mis ensemble, c'était assez complet. Le cinéma belge à Cannes était vraiment de la débrouille, je veux dire. On essayait de passer. Mon erreur a été au début de ne pas aller à la quinzaine des réalisateurs. Parce que la quinzaine des réalisateurs était beaucoup plus ouverte à certains films que je produisais. Mais comme je ne savais rien, j'allais à la grande compétition directement. Ça n'a pas été très bien reçu à Cannes. On était avec des grosses machines. Et donc, c'était un tout petit film léger. On commençait vraiment à balbutier en Belgique. On n'avait pas une pépinière de comédiens comme maintenant. Nous devions tourner avec des comédiens de théâtre qui n'avaient pas l'habitude quand même de jouer cinéma. En plus, les jeunes étaient un petit peu fous. Eux, ils étaient très heureux d'être à Cannes.
À l'armée, on donne aux garçons une mentalité tout à fait ridicule, une mentalité de petit chef, une mentalité de hiérarchie. Et j'aime pas du tout ce genre d'homme.
Dans le désordre de Bruxelles, il existe un lieu où un rêve architectural est devenu réalité. En 1991, le cinéma belge francophone se lève plein d'espoir quand un jeune cinéaste bruxellois, Jaco van Dormael, est sélectionné à la quinzaine des réalisateurs.
Les papas, c'est des messieurs. Le papa du voisin s'appelle aussi papa. Pourtant, c'est pas le même papa que le mien.
À 34 ans, il entre dans la cour des grands avec son film Toto le héros.
Et la caméra d'or est attribuée au film Toto le héros de Jaco van Dormael, présenté à la quinzaine des réalisateurs.
Je ne savais pas très bien où c'était Cannes, je ne savais pas très bien que la caméra d'or ça existait ni ce que c'était. Et c'est une chance formidable, c'est un prix que tu peux avoir une fois dans ta vie, un prix pour un premier film. Les festivals en général, et surtout le festival de Cannes, c'est une espèce d'amplificateur. C'est-à-dire que tout d'un coup, en 12 heures, 24 heures, il y a un effet qui se fait sur un film, sans qu'on sache trop bien pourquoi. Hein. Et il y a quelque chose de très... c'est formidable quand... Quand ça vous arrive ou quand ça arrive, c'était formidable que ça arrive à mes films.
Alors, Van Chicken Soup, qu'est-ce que tu as à me dire?
Tes parents, c'est pas tes parents, parce que c'est les miens.
Les choses qui m'ont le plus marqué, c'était des choses très. Des signes très, très étranges, comme tu vois, tout d'un coup, une foule qui se masse, qui se presse pour pouvoir rentrer dans le cinéma parce qu'elle a entendu qu'il y avait un film super qui s'appelait Toto l'Héros, etc. Et des gens qui tombent dans les pommes, une ambulance qui vient chercher les gens qui sont tombés évanouis parce qu'ils ont attendu trop longtemps dans le soleil. Et puis tout d'un coup les portes s'ouvrent, tout le monde s'engouffre et sur l'escalier il y a une chaussure. Il y a quelqu'un qui est rentré sans sa chaussure pour pouvoir voir le film. Il y a un côté exploit sportif presque, tu vois. Et c'est un peu la même chose que les restaurants pleins et les restaurants vides. Ouais, que tout d'un coup, tout le monde voit un restaurant bourré et tout le monde veut aller dans le restaurant qui est bourré parce qu'on dit ouais, ça a l'air super et qu'il y a une espèce de rumeur qui va très vite. Et un restaurant vide à côté où personne ne va parce que personne n'y va. Voilà. Et c'est peut-être le même cuisinier dans les deux. Voilà.
J'ai rien oublié, Alfred. Rien.
À l'époque de ces films-là, enfin de Toto, etc., on parlait plutôt d'une espèce d'absence d'identité. Que l'identité du cinéma belge, c'était la richesse d'une absence d'identité, c'était de ne pas avoir une école, de ne pas avoir quelque chose d'haussmannien. On fait des films qui ne sont pas destinés aux tuyaux, on fait des films qui ont des formes bizarres, en forme de fleurs, en forme de triangle, en forme d'étoile, alors que dans le tuyau rond, parfois ça reste calé, ou ça reste entre deux étages, mais parfois ça passe, et puis... cette espèce de chose étrange qu'on a en Belgique du fait qu'il n'y a pas vraiment d'industrie, qu'on est obligé, que chaque fois on fait des prototypes.
Comme en France, peut-être que les auteurs se censurent eux-mêmes, parfois, parce qu'ils savent ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qui sera bien reçu, ce qui ne sera pas bien reçu. Donc parfois ça les bloque un peu, ou ça, il y a des tendances qui sont un peu toutes les mêmes, parce qu'on a l'impression que c'est ça qu'il faut faire. Là, les Belges, non. J'ai l'impression qu'ils font ce qu'ils ont à faire, sans se soucier, se préoccuper du qu'en dira-t-on. Et c'est peut-être ça qui donne cette liberté très extraordinaire.
Con !
Qu'est-ce que tu dis là ?
Con ! T'as dit un cul ! Ta pète ! Pute ! Mongol !
Ah non, 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 le Mongol c'est toi.
Mongol !
Mongol !
Moi, Mongol. Oh, mon copain Larry.
Là, j'avais un film qui avait marché, je pouvais faire à peu près n'importe quel film, celui que je voulais. Et c'est là que je me suis dit, j'avais fait des courts-métrages avec des acteurs qu'on dit différents. Et je me suis dit, ben, je vais faire un long-métrage avec eux et avec Pascal qui jouait dans Toto. On était descendu avec un bus, avec tous les seconds rôles des acteurs qu'on dit différents. Et qui, eux, ont trouvé que c'était des vacances balnéaires, quoi. L'essentiel, c'était effectivement la plage, la piscine, les glaces.
C'est merveilleux. Je vais faire la balade avec maman et papy. Ici, dans la plage. On va voir le bateau, dans la mer. Parfois, il y a plein de filles. Comme un arrêt Malibu. Là, c'est génial.
Il y a ces interviews qui sont tout à fait surréalistes. Et Pascal nous a donné vraiment une leçon de comment faire des interviews, tu vois, comment faire la promo du film. C'est-à-dire, il fait ce qui lui plaît, il s'endort quand ça ne l'intéresse pas. Il s'endort. Si la journaliste est une femme, c'est plus intéressant que si c'est un homme. Et si on pose deux fois la même question, la fin.
The jury decided to give a joint award.
A décidé de donner un prix ex aequo au 8e jour.
Mesdames et messieurs du jury, c'est merci d'avoir supprimé la différence et d'avoir fait de Pascal un acteur à part entière. Merci à tous.
Mais il était tout à fait centré à sa place. Et cette merveilleuse phrase que Pascal a eue, « Je suis le meilleur acteur, mais Daniel n'est quand même pas mal non plus. »
Près de 25 ans après Toto le héros, en 2015, Jaco est de retour à Cannes, dans la salle de la quinzaine des réalisateurs, avec son tout nouveau testament. De belles retrouvailles après la désillusion de 2009 quand Mr. Nobody, son troisième film, le plus ambitieux jamais réalisé en Belgique, n'est pas retenu pour le festival.
Par an, on voit maintenant 1800 films. C'est-à-dire que Cannes est une sorte d'immense démocratie mondiale. Tous ceux qui ont réalisé un film de plus d'une heure et qui nous l'envoie, le film sera vu. Mais c'est ça notre métier, c'est aussi de dire non. Et le pire, de dire non à des films qu'on aime. Parce qu'évidemment qu'il y a plus, on prend 50, 60 films par an, il y en a beaucoup plus que nous aimons. Bon. Mais on doit penser à plusieurs choses, à sélectionner les films et à imaginer la réaction qu'ils auront. C'est un peu la garantie qu'on donne aussi aux productions de dire vous allez voir, ça va bien se passer, vous allez voir. Et il nous arrive de nous tromper, bien sûr. Pourtant, ici, dans cette salle, on est un groupe. Hein. Mais vous savez, les humeurs d'une projection font qu'on finit toujours par penser la même chose. C'est compliqué, une sélection. Il faut voir les films deux fois. Il faut vérifier, il faut être sûr. Il ne faut pas s'en parler, il ne faut pas s'influencer. Bon.
Jaco Van Dormael aime répéter qu'un homme